Bien, alors, d'abord, pourquoi ce sujet? Bah, tout simplement parce que on me l'a demandé, et c'est mon ami Gilles Roche qui m'a interpellé en me disant « Est-ce que à l'université, tu peux trouver un spécialiste de neurosciences qui viendrait faire une conférence sur neurosciences et éducation ?» Et donc, effectivement, ce sujet est un sujet d'actualité, puisque sur le plan médiatique, la presse s'en empare, il y a beaucoup de revues qui sont sorties et qui mettent en lien les neurosciences et l'éducation. Vous avez certainement suivi des émissions radio, des émissions télé, et puis effectivement depuis la nomination en 2017 donc de notre nouveau ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer, il a fait de nombreuses déclarations en disant qu'aujourd'hui il fallait arrêter avec le n'importe quoi dans l'éducation et qu'il fallait s'en référer aux sciences, comme si jusqu'à maintenant on ne s'en référait pas, bien sûr, et que notamment il fallait mettre en œuvre tous les acquis des neurosciences. Bon. Donc c'est une politique annoncée, délibérée par le ministère et qui va se concrétiser dans les programmes. Ceci dit, il a créé le comité scientifique de l'éducation nationale le 11 janvier 2018 et à la tête de ce comité, il a mis Stanislas Dehaene qui est un spécialiste reconnu, éminemment reconnu, puisqu'il est au Collège de France, puisqu'il tient une, il est professeur de neurosciences cognitives, et donc il l'a mis à la tête de ce conseil, son rôle étant explicitement de donner des conseils aux ministres et aux enseignants, par l'intermédiaire du ministre, pour mettre en application les neurosciences dans le cadre de l'éducation nationale. Donc son rôle est explicite et il a déjà eu multiples interventions dans ce sens-là, notamment à travers les médias. Alors, il y a de très nombreux ouvrages aujourd'hui qui paraissent, ou qui sont parus depuis déjà un certain temps, sur le sujet, vous en avez quelques-uns sous les yeux, neurosciences cognitives dans la classe, l'école et le cerveau, l'école du cerveau, le cerveau et les apprentissages, on peut passer, il y en a d'autres, les neurosciences en éducation. Alors, on va vers un nouveau concept qui est la neuroéducation, les neurosciences de l'éducation, donc vous voyez, on ajuste les termes autant que possible. On voit les neurosciences en éducation, et puis on voit les neurosciences de l'éducation. Donc si on fait une analyse linguistique grammaticale, on va s'apercevoir que ça n'a pas tout à fait le même sens. Bon, ceci dit, image suivante, il y a les neurosciences au cœur de la classe. Donc, les enseignants sont interpellés, bien sûr, par ce sujet. Et alors, comme disait votre présidente tout à l'heure, il y a aussi ce qu'on appelle les neuromythes, c'est-à-dire que finalement, cette publicité autour des neurosciences et de l'éducation peuvent entraîner ce qu'on peut appeler, donc ce que vous avez appelé, des neuromythes. C'est-à-dire qu'on en arrive quasiment à ne pas savoir quelle est la part du faux et la part du vrai dans l'application des neurosciences dans le cadre de l'éducation. Et ça crée effectivement des mythes, comme si avec les neurosciences nous allions pouvoir régler tous les problèmes éducatifs qui aujourd'hui sont nombreux en France, puisque d'après les derniers rapports de classement internationaux, nous ne sommes pas en France en très bonne position dans les résultats scolaires et notamment au regard de l'échec scolaire. Et notamment des inégalités sociales, parce que la France a ce site remarquable qu'elle a les meilleurs savants, les meilleurs résultats d'un point de vue scolaire, mais elle a aussi les plus mauvais résultats dans l'autre sens. Donc nous sommes plutôt aux extrêmes des résultats, avec de très bons résultats et de très mauvais résultats. Et au milieu, eh ben, il y a vos enfants, nos enseignants, etc., qui ne sont ni extrêmement brillants, ni en échec scolaire, puisque si vous êtes là, vous ne devez pas avoir d'enfants en échec scolaire, je suppose. On peut passer. Alors, à la demande de mon ami Gilles Roche, qui est un fervent adhérent, je crois, de votre cercle, lorsqu'il m'a demandé de trouver un conférencier en neurosciences, j'ai mis des annonces parmi, d'une part, ceux que je connais à l'université, et puis, par l'intermédiaire de ceux-ci, j'ai demandé si d'autres collègues pouvaient intervenir sur ce sujet. Et à ma grande déception, eh bien, les uns et les autres, petit à petit, se sont rétractés en disant « ce n'est pas ma spécialité, moi je suis bien spécialiste de neurosciences, mais pas d'éducation », ou « moi je suis spécialiste d'éducation, mais pas de neurosciences », et « je n'ai pas trouvé à Montpellier de spécialistes de neurosciences et d'éducation ». J'essaie de m'y atteler, dans la mesure où je ne suis ni spécialiste de neurosciences, un peu spécialiste en sciences de l'éducation, mais pas du tout vraiment spécialiste de neurosciences, bien que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, il faut dire qu'il n'existe pas en France de champ universitaire avec cette dénomination. C'est-à-dire que neurosciences et éducation, ça n'existe pas dans les instances universitaires. Au CNU, Comité National des Universités, par exemple, il n'y a pas de section neurosciences et éducation. Et même dans la 70e section, c'est-à-dire la section des sciences de l'éducation, il n'y a pas de sous-section neurosciences et éducation. Ça n'existe pas. Donc, en France, ça n'existe pas. Dans les autres pays, aux USA notamment, on peut trouver quelques enseignants ou quelques spécialistes qui se disent spécialistes de neurosciences et éducation, mais ils n'ont pas du tout les mêmes instances universitaires qu'en France, avec des qualifications, avec tout un système de filtrage, etc. Et un président d'université peut parfaitement recruter un professeur spécialiste de neurosciences et éducation sans qu'il n'ait fait, effectivement, sans qu'il ne soit passé sous les fourches codines des institutions de sélection qui lui permettraient d'être reconnu dans ce champ. Bon. Il n'y a pas en France d'experts reconnus dans ce domaine. Il n'y a pas d'experts. Il n'y a pas non plus de revues qui sont des revues spécialisées dans ce champ-là. Et s'il y avait des revues spécialisées dans ce champ-là, il y aurait forcément un comité d'expertise et d'experts qui permettrait donc de vérifier entre pairs, bien sûr, le bien fondé des articles qui sont soumis. Tout cela n'existe pas en France, et donc n'importe qui peut se décréter spécialiste en neurosciences et en éducation. On passe. Alors, bien sûr, au regard de tous les ouvrages qui ont été affichés tout à l'heure, il y a un certain nombre d'expérimentations qui sont menées en France, entre notamment des universitaires et des enseignants. Mais les résultats qui sont abordés sont à confirmer. C'est-à-dire que je n'ai pas vu vraiment d'articles présentant des expérimentations avec des résultats qui sont confirmés, etc., dans aucun champ qui nous concerne dans le monde de l'éducation. Alors, il y a beaucoup d'articles qui sont des articles de synthèse, il y a beaucoup d'articles qui sont des méta-articles, c'est-à-dire des articles sur tout ce qui est paru, mais aucun de ces articles ne prend en compte des résultats réels d'expérience ou d'expérimentation. Ça, je n'en ai pas vu qui apparaissent et qui font force de loi. Alors, tiens, juste un exemple pour vous sensibiliser au problème de la neuroéducation. Vous êtes assis là, tranquille. Je vais vous demander, par exemple, de lever une jambe, la jambe droite. Droite, ça sous la gauche. Il peut.
Si c'est prêt.
Il peut. Non, vous la soulevez seulement légèrement. Et vous la faites tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon. Est-ce qu'il y en a qui n'y arrivent pas? Oui, j'en vois qui font l'inverse. Dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est dans ce sens, hein. D'accord? Vous y arrivez tous? Très bien. Ben, vous continuez une seconde. Et maintenant, avec la main, hein, donc vous continuez, vous faites un 6. En commençant par la queue. Comme ça. Donc vous tournez et vous faites un 6. Moi, je n'y arrive pas. Est-ce qu'il y en a qui arrivent? Ah, vous pouvez essayer. Vous pouvez faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et puis, au lieu de commencer par la queue, vous commencez par l'intérieur du 6. Essayez. Il paraît que c'est plus facile. Bon. Alors, voilà. Ce type d'expérience... est fait, hein, avec des populations, et qu'est-ce que ça nous démontre? Ben, ça nous montre tout simplement que on ne peut pas commander à son cerveau, comme le postulent les neurosciences éducatives, de faire ce que l'on veut faire quand il y a des obstacles à ce que l'on veut faire. Alors, ça, c'est démontré depuis plus d'un siècle. Ça s'appelle des syncinésies. Hein, c'est-à-dire que dans notre cerveau, en fonction de notre latéralisation, qui est le fruit de toute une éducation, eh bien, ces syncinésies existent et elles sont extrêmement difficiles à modifier. Bon. Mais aujourd'hui, vous avez tous entendu parler de 10. Hein, de dyslexie, de dysorthographie, de dyscalculie, de dyspraxie, etc. Et tous ces 10, eh ben, sont dans cette problématique-là. C'est-à-dire que, ben, comme vous, ils n'arrivent pas à réguler ce qu'ils aimeraient ou ce qu'on voudrait qu'ils fassent, et cela s'explique tout à fait parfaitement comme par ces syncinésies. Donc, la dyslexie n'est pas facile à régler, et surtout elle n'est pas facile à régler quand on se dit oui bon mais avec les neurosciences ça va nous expliquer comment on va régler par exemple des dyslexies, et puis les enseignants n'auront plus qu'à appliquer des recettes pour régler les problèmes de dyslexie. C'est pas si facile que ça, et pourtant ces connaissances anciennes elles existent. Les explications récentes, notamment à partir de toutes les explorations du cerveau, eh bien, nous montrent et nous donnent de nouvelles pistes, comme par exemple les neurones miroirs, hein, qui sont une piste intéressante sur le plan neurocognitif, mais qui nous dit pas comment il faut procéder pour rééduquer, par exemple, ces 10. Ça ne nous le dit pas. Ça nous explique, mais ça ne nous dit pas comment il faut faire pour régler ce problème. Là, je vous mets au défi de trouver la solution pour aller dans un sens avec les pieds et dans l'autre sens avec les mains. Je vous mets au défi, mais si le problème se pose d'une façon ou d'une autre, hein, à peu près sur une problématique semblable dans la classe, eh bien, les enseignants seront en difficulté pour régler ce problème, même s'ils savent que il y a des systèmes neuroniques qui font que, effectivement, on peut expliquer pourquoi ça se passe. Ça se passe comme ça, c'est sûr, mais comment le réduire, c'est autre chose. Voilà. Alors, une autre question, bien sûr, quand on m'a dit neurosciences et éducation, moi, la première question qui se pose, c'est pas celle des neurosciences, c'est celle de l'éducation. Qu'est-ce que c'est que l'éducation? Bon. Alors, lorsque j'étais à l'IUFM de Lille, j'avais des promotions d'étudiants tous les ans, et tous les ans, pendant 3 ans, je me suis amusé à prendre 600 étudiants, c'est-à-dire tous ceux qui rentraient, et un quart d'heure, hein, je les prenais en disant, prenez une feuille de papier, un crayon, allez-y, vous pouvez faire pareil, et vous écrivez sur votre papier, et dans un quart d'heure, je ramasserai les copies. Quelle est la différence entre développement, apprentissage et éducation? C'est extrêmement simple. Hein. Donc, je laissais faire pendant un quart d'heure. Les étudiants s'affairaient sur leurs copies. Au bout d'un quart d'heure, je ramassais les copies et j'en prenais quelques-unes au hasard en lisant tout simplement ce qui était inscrit. Au grand dam de tous les étudiants qui disaient « Mais c'est pas possible, on ne peut pas définir l'éducation en disant que c'est l'apprentissage de la vie. » Bon, alors l'apprentissage, comment on le définit bon, etc. À votre avis, quelle est la différence entre développement, apprentissage et éducation? Vous avez la parole.
Le développement, c'est naturel, l'apprentissage, c'est...
Oui, et l'éducation?
Social. C'est pas de l'apprentissage en sens de revie.
Alors, quand on parle d'éducation, c'est très délicat parce qu'il y a le sens courant, éducation, un enfant qui a une bonne éducation, il est bien éduqué, bon, en général on parle de la politesse, on parle de, hein, vous dites bonjour à la dame, etc. Ça c'est l'éducation au sens très courant du terme, mais pas au sens scientifique du terme. Et puis, effectivement, par exemple, un garçon qui est bien éduqué, ou une jeune fille qui est bien éduquée, alors, on dit, c'est quelqu'un qui a appris la politesse. Est-ce que la politesse, ça s'apprend? Oui, ça s'apprend. Mais alors, si c'est de l'apprentissage, c'est plus de l'éducation. Bon. Donc là, nous avons affaire à un problème qui est un problème majeur, qui est un problème classificatoire. Donc, en général, dans toutes les sciences, on commence par établir des classifications. Hein, vous avez tous appris les classifications en matière en sciences naturelles, par exemple, hein, des éléments, etc. Vous avez tous appris en sociologie les classifications, etc. Mais quand on étudie ces classifications, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas beaucoup qui respectent les règles scientifiques d'une classification, qui sont au minimum deux règles élémentaires, qui sont celles de l'exhaustivité et celles de l'exclusivité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir deux choses dans le même tiroir s'il y a un tiroir pour chaque chose. C'est-à-dire qu'avec une classification d'un champ, on doit pouvoir mettre tous les éléments du champ de façon exhaustive dans cette classification, mais de façon exclusive, c'est-à-dire qu'aucun élément ne peut être dans deux classes en même temps. C'est très simple. Alors, faites l'expérience dans votre tête, entre développement, apprentissage et éducation. Et vous allez vite voir que c'est extrêmement difficile de ne pas parler d'éducation sans parler d'apprentissage, c'est-à-dire que les deux tiroirs hein, se rencontrent, ou de ne pas savoir dans quel tiroir on va le mettre. Bon. Alors, ça a été à l'origine de mes travaux et de mes recherches. Je me suis intéressé aux classifications. On passe. Alors, peut-être que vous êtes interrogé sur le terme conatif. Effectivement, personnellement, ça fait une quarantaine d'années que je travaille sur des modèles conatifs, et non pas des modèles cognitifs. Hein? Alors, quelle est la différence? Elle est extrêmement simple. La cognition, puisque là on parle surtout de neurosciences cognitives. Hein. La cognition, c'est tout ce qui concerne de peu ou prou la connaissance. Tout ce qui a rapport avec la connaissance fait partie du domaine cognitif. Bon. Et la cognition, c'est tout ce qui s'intéresse à l'action. Donc, bien sûr, quand on agit, on met en œuvre des connaissances. Mais globalement, la cognition inclut la cognition, c'est pas l'inverse. Donc les neurosciences cognitives s'intéressent à ce qui crée, ce qui permet de maintenir, de mémoriser et d'entretenir, bien sûr, et d'utiliser les connaissances. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas l'enregistrement des connaissances, ce qui m'intéresse, c'est l'action. C'est-à-dire, de ces connaissances, qu'est-ce qu'on en fait? Bon. Alors, je suis issu, personnellement, du monde sportif. Ça se voit pas. Mes premiers travaux ont porté sur le sport, bien sûr, et notamment les classifications dans le sport. Bon. Je faisais des cours d'histoire du sport, etc., à l'université, en STAPS, mais bon, il a fallu que je me confronte à la fois historiquement et présentement au problème des classifications en sport. Et il y a des centaines de classifications en sport. Et parmi ces centaines de classifications, hein, que vous connaissez tous, peu ou prou, dont vous avez entendu parler, hein, les sports individuels, les sports collectifs, ou les sports de tel type, etc., qui font partie des programmes, hein, des enseignants d'éducation physique, par exemple, eh bien, dans ces classifications, aucune ne respecte exhaustivité, exclusivité. Aucune. Donc, je me suis posé vraiment la question, au bout d'un certain temps, alors que tout le monde connaît le sport, tout le monde regarde des images de sport, à la télévision, tout le monde regarde le sport, tout le monde a entendu parler du sport, tout le monde est sensibilisé au domaine du sport, quel qu'il soit d'ailleurs, parce que vous faites tous peut-être du sport, de la marche, etc., et en fonction de vos possibilités. Ceci étant dit, en étudiant justement ce phénomène mondial, quasiment universel, qu'est le sport, eh bien, on peut déduire que, en fonction des modalités de victoire, eh bien, il n'y a pas 50 000 façons de gagner. Et quand on réfléchit bien au sport traditionnel compétitif, hein, eh bien, il y a trois façons de gagner. Il y a soit on peut gagner en mesure, soit on peut gagner en conformité à un modèle, soit on peut gagner au score. Alors, je vous mets au défi de trouver une autre façon de gagner dans des sports traditionnels compétitifs. Allez-y, donnez-moi 2-3 sports. Donne-moi un sport.
Le foot.
Le foot. Ben, le foot, ça se gagne au score. Jean-Luc ?
Je sais pas, le ski.
Le ski. Alors, le ski, il y a plusieurs modalités de pratique de ski. Par exemple, entre le ski de fond, balade de ski, etc., entre le ski de vitesse, entre le ski acrobatique, bon, il faut préciser dans quel domaine nous sommes. Et ça, c'est très intéressant, parce que en ski de vitesse, par exemple, ben, c'est une mesure du temps, et puis, il n'y a pas à se tromper, le temps, c'est le temps, et aujourd'hui, on en est au millième de seconde. Hein. Mais le ski acrobatique, eh bien, c'est un ski qui en appelle à des juges, il y a des juges, forcément, qui eux-mêmes se réfèrent à leur représentation qu'ils ont de la conformité à un modèle, et à partir de là, ils mettent une note, on moyenne les notes, et on dit qui a la meilleure moyenne. Donc, il faut différencier le ski de vitesse et, par exemple, le ski acrobatique. Mais, est-ce qu'il n'en est pas de même, par exemple, en mathématiques ? Quelle différence y a-t-il et comment gagne-t-on en calcul mental, en arithmétique ou en géométrie? Alors, vous posez cette question à des futurs enseignants, alors ils ne savent pas. Mais vous la posez à des enseignants en poste, avec 10 ans, 15 ans d'expérience, ça les fait réfléchir. Comment gagne-t-on en calcul mental? Comment gagne-t-on? C'est-à-dire, qui gagne? La vitesse, c'est celui qui trouve le premier. Donc on est dans la mesure de la vitesse, d'accord? Mais est-ce que c'est pertinent, d'après vous, de gagner en arithmétique, par exemple, c'est-à-dire qu'on vous pose un problème, il faut trouver la solution du problème, est-ce que la vitesse est pertinente? Ou est-ce que trouver la réponse, c'est plus pertinent? Et pourquoi?
Trouver la réponse,
c'est quand même, à mon avis, supérieur, hein, préférable, on va dire, que d'aller vite et de se tromper. Alors, bien sûr, on peut aller vite et trouver la réponse, mais ce qui compte, c'est de trouver la réponse, parce que la vitesse, on s'en fout. Bon. En géométrie, Alors, en géométrie, est-ce que c'est une question de vitesse? Est-ce que c'est une question de trouver la réponse? Ou est-ce que c'est une question de réaliser quelque chose qui est conforme à ce qu'on vous demande? Par exemple, si on vous demande de dessiner un ovale, comment vous faites? Et quand vous demandez à un élève de dessiner un ovale, voilà, on fait comme ça, bien sûr. Mais comment fait-on? Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves qui savent comment on dessine un ovale? Et si, effectivement, il sait comment on dessine un ovale, c'est qu'il l'a forcément appris quelque part. Il ne l'a pas inventé. D'accord? Alors, effectivement, il y a deux pôles, et puis, avec une ficelle plus longue que la distance entre les deux pôles, eh ben, on trace la circonférence de l'ovale, bien sûr, et on a toujours le même rapport, la même distance qui s'ajoute, bien sûr, entre les deux pôles plus les deux éléments du triangle. En fait. Bon, donc, ce modèle que je présente, qui est un modèle extrêmement simple de classification, on va le retrouver en mathématiques, mais bon, dans un instant, on verra qu'on peut le retrouver aussi en français, on va le trouver, etc. Quelle différence y a-t-il entre la récitation, entre la composition française ou l'expression française, hein, et puis l'orthographe. Aujourd'hui, tous nos étudiants ne savent plus écrire sans faire de faute d'orthographe. Bon. Et qu'est-ce qui est en question? Est-ce qu'ils ne savent pas s'exprimer? Si, ils s'expriment parfaitement bien, mais ils font des fautes d'orthographe. Alors, sur le plan du cerveau, où ça se situe, les fautes d'orthographe? C'est un apprentissage. Mais est-ce que l'expression, c'est un apprentissage? Alors, je vais plus loin. On passe. Derrière ces modalités de victoire que vous pouvez rapporter à n'importe quelle activité humaine, vous allez avoir un certain nombre de composantes sous-jacentes qui sont, pour la mesure, la structure même de l'individu, pour la conformité des savoir-faire, et pour le score, ou les équivalents de comptabilité, une ou des fonctionnalités. Et donc, si l'on va un peu plus loin sur la différenciation entre développement, apprentissage, éducation, on va s'apercevoir que l'amélioration de chacune de ces composantes, pour l'amélioration de la structure, et donc qui se mesure, c'est le développement. En ce qui concerne l'amélioration de savoir-faire, c'est l'apprentissage. Et en ce qui concerne l'amélioration de la fonctionnalité ou des fonctionnalités, qu'elles soient motrices, mentales, c'est l'éducation. Donc, l'éducation, c'est le processus d'amélioration de toutes les fonctions qui sont motrices ou mentales. Bon. Et effectivement, si vous prenez n'importe quelle fonction mentale, par exemple des opérations, bon, eh bien, est-ce que des opérations, ça se développe? Non, ça n'a pas de sens. Est-ce que des opérations, ça s'apprend? Alors, il y en a qui vont dire immédiatement, bah oui, on apprend à faire une multiplication. Mais quelle multiplication vous apprenez? Puisque la multiplication, par définition, elle change tout le temps.
On apprend les tables de multiplication.
Alors, on peut apprendre les tables de multiplication par cœur, effectivement, bon, et les mettre en mémoire, mais vous ne pouvez pas apprendre les multiplications, puisque les multiplications, justement, par définition, c'est une fonction opératoire qu'il faut éduquer. Bon. Mais ce serait faux de dire que aujourd'hui, alors avec les neurosciences, par exemple, on s'aperçoit que cette fonction mathématique, eh bien, elle émerge très 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 jeune. C'est-à-dire que toutes les expérimentations en neurosciences avec l'imagerie cérébrale montrent que des bébés, ont déjà des fonctions mathématiques élaborées. Chose que les Piagetiens, par exemple, ignoraient dans les années de Piaget, ou même où il a fait Flores, c'est-à-dire jusqu'aux années 50, eh bien, on pensait que, non, il ne pouvait pas rentrer, par exemple, dans des calculs mathématiques avant d'avoir atteint un certain âge, c'est-à-dire l'âge des abstractions et des symboles. Aujourd'hui, les neurosciences nous montrent que, eh bien, dès le plus jeune âge, cette notion mathématique n'est pas étrangère au bébé. Bon, ça c'est un acquis des neurosciences. Et puis on passe, vas-y. Alors, bien sûr, derrière tout cela, et on ne peut pas parler de conation, par exemple, sans parler de valeur, hein, puisque la conation, c'est ce qui pousse à l'action en fonction de valeurs incorporées. Donc, quelles sont ces valeurs qui sont incorporées dès le plus jeune âge? C'est pour, effectivement, le développement, le fort, hein, comparaison, mesure de la structure hein, qui engendre cette force, pour l'apprentissage, le beau, et pour l'éducation, le vrai, le juste. Donc, force, sagesse, beauté, qui sont des éléments essentiels de cette modélisation et qui se rapportent tous, bon, soit au développement, soit à l'apprentissage, soit à l'éducation. Hein. Alors, on poursuit. Et derrière tout cela, on ne peut pas aborder de science sans parler de temporalité. Et donc, si l'on parle de temporalité, il faut replacer les choses dans leur essence, c'est-à-dire que la structure, eh bien, elle se mesure, mais elle se mesure à un instant précis dans le présent, alors que les savoir-faire nous viennent obligatoirement du passé. C'est-à-dire que toutes les techniques, tous les savoir-faire qui s'apprennent, nous viennent du passé. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été élaborées dans le présent, elles ont déjà été élaborées bien avant nous. Et quand un enfant arrive en classe, eh bien, tout ce background, eh bien, il le possède déjà. Peu ou prou, après, il faut peut-être le modifier. Quant à l'éducation, eh bien, l'éducation, elle sert à se projeter dans le futur, et c'est dans ce futur-là que l'amélioration des fonctions motrices, mentales, etc., nous intéresse. C'est pas ni tout à fait dans le présent, bien sûr, on peut les apprécier dans le présent. On peut savoir si vous avez été fonctionnel dans le passé. Mais ce qui nous intéresse en termes d'amélioration et d'éducation, c'est le futur. Alors, si on passe sur les... Qu'est-ce que la pédagogie, maintenant, pour en venir effectivement au problème de neurosciences et éducation, là, il y a un débat. Certains vous diront, la pédagogie, c'est une science. Bon, on va voir. D'autres vous diront, non, non, la pédagogie, c'est pas une science, sinon ça se saurait, c'est un art. Et en fait, tous les aujourd'hui, en sciences de l'éducation, tout le monde tend à dire que la pédagogie, c'est une pratique. Et donc, si la pédagogie est une pratique, effectivement, cette pratique peut ou doit s'appuyer sur des sciences exactes, plus ou moins exactes, sciences exactes et sciences humaines, bien sûr. Et puis, tout le monde s'accorde à dire que en pédagogie, ben, il y a une part d'inconnu qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que... Pardon ? C'est exactement comme le cas de la médecine. Exactement. Mais la médecine, c'est comme la pédagogie, c'est ni une science exacte, mais qui s'appuie sur des sciences exactes. C'est, alors, à un moment donné de l'histoire de la médecine, on a dit que c'est un art, mais on en est sorti. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire, enfin, en tout cas les spécialistes et les théoriciens de la médecine, que c'est une pratique. Bon. Et que si c'est une pratique, eh bien, le facteur d'amélioration de cette pratique, c'est l'expérience. C'est-à-dire que plus on a d'expérience, il y a des expériences qui peuvent aussi nous amener dans le mur, mais plus on a d'expérience et plus on a des chances d'être maître dans cette pratique. Passe. Alors, bien sûr, la pédagogie, comme son nom l'indique, ça s'intéresse à l'enfant. Alors, le problème, quand un enseignant il a un enfant en face de lui, qu'est-ce qu'un enfant? Alors, un enfant, bon, on peut, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études sur l'enfant, mais si l'on peut résumer aujourd'hui à qu'est-ce qu'un enfant, on est obligé de prendre au moins en compte trois dimensions. C'est le représentant d'une espèce. Il ne vient pas de n'importe où. C'est-à-dire qu'il a de la biologie en lui. Et il est le résultat de l'évolution de l'espèce. C'est-à-dire que c'est un animal hein, qui vient de primates. C'est un mammifère. On ne peut pas. C'est un vertébré. c'est un organisme multicellulaire, c'est une mémoire biologique, c'est de l'ADN, c'est etc., etc. Enfin, tous ces éléments qui constituent sa structure, d'accord, eh bien, font partie de cet enfant et on ne peut pas l'ignorer. Bon. Donc, les neurosciences s'intéressent de près à cette organisation et elles cherchent à savoir comment elle marche. Alors, mais un enfant, c'est aussi un individu, c'est-à-dire un être qui s'auto-organise de façon extrêmement complexe, c'est-à-dire qui est en perpétuel développement et en perpétuelle auto-organisation. Bon. Mais il n'est pas de rien. C'est-à-dire que quand il arrive, il est déjà individuel. Il a suivi un processus d'individuation qui est à la fois psychique et collective. C'est-à-dire qu'il n'est pas de rien. Quand il naît, il a déjà en lui toutes les techniques culturelles qui l'ont précédé. Bon. Et qui sont inscrites peu ou prou, non pas dans ses gènes, mais dans son être vivant, qui, à un moment donné, est obligé de prendre en compte son environnement. Et donc, c'est aussi un être social, c'est-à-dire, tous vos enfants ont appris à parler votre langue. Bon. Mais s'ils étaient dans un autre pays, ils auraient appris un autre langage. Donc, ils baignent dans un bain culturel, mais aussi dans un bain institutionnel, et l'école fait partie de ce bain institutionnel. Donc, si on ne prend pas toutes ces dimensions, eh bien, il est difficile d'agir sur cet enfant. Donc, il faut avoir cela en perspective, et mettre tout cela en perspective, ce qui n'est pas facile quand on est dans une classe avec 30 enfants en face. Alors, si l'on met en perspective les neurosciences et l'éducation, on s'aperçoit que les neurosciences s'intéressent d'abord et avant tout à l'être biologique. C'est-à-dire que ce qu'on explore en neurosciences, ce n'est pas l'être social. C'est pas non plus sa complexification en auto-organisation. Ce qui intéresse le neuroscientifique, c'est d'abord le biologique. Dans quelles conditions il le fait ? Eh bien, il le fait toujours dans l'exploration du présent. C'est-à-dire qu'il n'explore pas ce qui est passé, puisqu'on ne sait pas comment il pourrait faire pour explorer ce qui est passé. Donc, quand on fait des explorations dans le cerveau d'un enfant, par exemple, on l'explore au présent. D'accord ? Et puis, on cherche à définir un certain nombre de choses. Donc, on est dans une démarche de finitude. C'est ce qui intéresse les neurosciences, c'est le fini et le déterminé, en se disant que eh bien, cela va pouvoir être exploité, alors dans différents domaines, hein, parce que les neurosciences donnent des conseils aussi dans le commerce. Hein, comment agencer les pots de yaourt dans un étalage pour améliorer la vente. Bon, donc on fait aussi des explorations de ce type, ça n'intéresse pas seulement à l'éducation, c'est évident. Jean-Luc. Et donc, les préoccupations pédagogiques ne sont pas du tout du même ordre. Les préoccupations pédagogiques, c'est préparer le citoyen, pas d'aujourd'hui, c'est le citoyen de demain. Bon. Et pour quelle société ? Bon, se pose la question des valeurs, et se pose la question aussi de l'infini et de l'indéterminé. C'est-à-dire que, autant les sciences biologiques s'intéressent au fini et au déterminé, c'est-à-dire aux choses, autant les préoccupations pédagogiques se projettent dans un infini de possibilités, mais qui est complètement indéterminé. Alors, on poursuit. Et quelle consonance y a-t-il entre les neurosciences et l'éducation ? On s'aperçoit que d'un côté, les neurosciences s'intéressent au passé et au présent, alors que l'éducation s'intéresse surtout à l'avenir. Donc on n'est pas du tout sur le même type de préoccupation. Les neurosciences s'intéressent au fini et au déterminé, alors que l'éducation s'intéresse à l'infini et à l'indéterminé. Les neurosciences s'intéressent au biologique, surtout au biologique, alors que l'éducation s'intéresse surtout au social et à l'environnemental. Donc, il y a une sorte de dichotomie entre neurosciences et éducation qui, alors on va continuer, qui va introduire un certain nombre de mythes, et notamment de neuromythes, dont on verra de quoi il s'agit tout à l'heure. Alors, je ne voudrais pas dénigrer les neurosciences, ce n'est pas mon objet. D'autant que les neurosciences apportent des éclairages très importants sur l'apprentissage. Par exemple, la découverte pour l'éducation la plus importante des neurosciences, c'est la plasticité cérébrale. Pour être simple, dans le temps, on disait « tout être est éducable ». Bon, et donc on faisait le pari de cette plasticité cérébrale. Mais c'était qu'un pari. Aujourd'hui, on sait qu'effectivement, cette plasticité cérébrale existe, et elle est cumulative, et que même des êtres qui sont, qui ont des problèmes, on va dire, scolaires, bon, eh bien, sont en mesure, effectivement, d'augmenter leur puissance d'action, notamment par l'accumulation d'un certain nombre de choses, hein, puisque le développement y contribue, mais l'apprentissage est possible, et il est possible pour tous, et jusqu'à la fin de sa vie. Ça, les neurosciences nous l'apprennent, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on disait, bon, à partir d'un certain âge, il n'est plus possible d'apprendre. Bon, les neurosciences nous montrent aujourd'hui que jusqu'à la fin de sa vie, il est toujours possible d'apprendre. Et donc cette plasticité cérébrale est un apport éminemment important des neurosciences, notamment pour l'éducation et l'éducation, par exemple, des plus faibles, des plus handicapés, de ceux qui sont en échec scolaire, etc. etc. Les neurosciences sont intéressantes sur le plan de l'intelligence, bien sûr, puisque tous les pédagogues se posent la question, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Comment rendre intelligent un enfant qui est imbécile? C'est pas facile, vous êtes tous confrontés à ce problème, moi en premier. Et donc, cette question se pose. Bon. Et là, les neurosciences nous apprennent qu'effectivement, il y a intelligence avec un grand I, et puis intelligence au pluriel avec un petit i, c'est-à-dire qu'il y a une pluralité, une multiplicité d'intelligences qui sont des intelligences diverses et variées, et que l'école en général ne s'adresse qu'à un type d'intelligence, et qu'il ignore tous les autres types d'intelligence qu'il faudrait mettre en valeur, évaluer, de façon à pouvoir les exploiter au maximum, sans que, effectivement, on néglige les autres formes d'intelligence, mais cette surévaluation, on va dire, d'une intelligence propre au domaine scolaire invalide de fait aujourd'hui toutes les autres formes d'expression d'intelligence, ce qui est dommageable bien sûr pour le résultat et le futur. Les neurosciences apportent un certain nombre d'éléments d'éclairage sur l'attention et notamment les troubles de l'attention, c'est-à-dire que elle montre de façon extrêmement claire qu'il n'y a pas d'apprentissage possible sans une forme d'attention, une forme de concentration qui est nécessaire justement pour modifier ces circuits dont on va parler dans un instant. Mais sans cette attention, eh bien, la distraction nuit à l'apprentissage. Alors, bon, vous me direz, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que tous les enseignants savaient bien qu'il faut être attentif pour apprendre. Bon. Mais là, les neurosciences nous le montrent de façon plus claire, avec des images cérébrales, qui nous montrent qu'effectivement, quelqu'un qui n'est pas attentif, eh ben, les zones cérébrales de l'apprentissage ne s'allument pas, alors que quand on est attentif, eh bien, elles s'allument et elles permettent justement cette augmentation, cette oxygénation de ces zones cérébrales, et par là même, elles permettent l'apprentissage. Les neurosciences sont très importantes parce que un de leurs objets, c'est la mémoire et les processus de mémorisation. Alors, les processus de mémorisation, là, pour le moment, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, mais sans avoir, sans aujourd'hui apporter de réponse. En revanche, les zones de mémorisation commencent à être bien identifiées. Maintenant, le problème est toujours le même. C'est pas parce qu'on a identifié les zones cérébrales de mémorisation qu'un enseignant en classe va pouvoir les exciter et faire en sorte que la mémoire soit améliorée. Bon. Ceci dit, on a un éclairage sur ce qu'est la mémoire. Bon. Les neurosciences apportent un éclairage très important aussi sur le problème du stress au regard de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'un enfant qui est stressé, on va revenir dessus tout à l'heure, pour quelque raison que ce soit, c'est quelqu'un qui est en difficulté d'apprentissage. C'est-à-dire que le stress va juguler les processus d'apprentissage. Et donc, c'est le stress qui va l'emporter dans cette bataille, justement, notamment de concentration ou d'attention. C'est-à-dire que le stress va troubler l'attention. Les troubles de l'attention viennent, justement, d'un environnement stressant qui peut être provoqué par n'importe quoi, peut-être aussi par l'enseignant lui-même ou par la matière. Et à partir de là, l'apprentissage est difficile. Donc, la règle que peut tirer l'enseignant, c'est tout simplement qui mettent l'élève dans une situation tranquille, où il n'a pas de stress, hein, et dans lequel l'apprentissage sera favorisé. Jean-Luc. Donc, il y a un certain nombre de zones obscures, quand même, qui restent, et qu'il faut débroussailler. Par exemple, en termes d'apprentissage, ou d'éducation, mais il s'intéresse surtout à l'apprentissage, quel est le statut de l'erreur en classe? Est-ce que l'erreur, sur le plan neurologique, neurobiologique, c'est une erreur d'aiguillage ou est-ce que c'est autre chose que cela? Alors, la piste de l'erreur d'aiguillage aujourd'hui est envisagée, mais pour quel circuit? C'est-à-dire que, quand on explore effectivement le cerveau avec les outils actuels, on voit bien qu'il y a des circuits qui sont suivis, mais est-ce que c'est celui de gauche ou celui de droite qui est le bon? Ça, les neurosciences ne nous le disent pas. Et est-ce que en empruntant un mauvais circuit, on ne peut pas revenir sur le bon circuit? Pourquoi pas, hein? Donc, le statut de l'erreur est à retrouver ailleurs que dans les erreurs d'aiguillage. Il est notamment à trouver, dans la suite, par exemple, le problème de l'impuissance apprise. Alors, les neurosciences nous montrent bien, aujourd'hui, qu'effectivement, le stress... Alors, il y a des expériences qui ont été menées sur les punitions, ou sur l'autorité, mais l'autorité, on va parler après, sur les punitions. C'est-à-dire que la peur de la punition est tellement prégnante qu'un enfant qui n'arrive pas au résultat, donc qui est déclaré comme en faute, c'est quelqu'un qui pense très rapidement que l'origine de la faute, c'est lui-même. Et donc, il est finalement bon à rien. Et donc, comme il se trompe toujours, c'est lui qui est impuissant. Alors que, par d'autres moyens, il est facile de détourner cette tentation et de lui rendre cette puissance qui est aussi bien une puissance d'exister qu'une puissance d'apprendre. L'autoritarisme a été étudié également. Enfin, l'autorité a été étudiée. Et on s'aperçoit que l'autoritarisme déclenche de la peur et donc déclenche du stress, est un facteur donc de détérioration des apprentissages. Bon, ça c'est clair. Alors que l'autorité, un enseignant qui fait autorité, c'est quelqu'un qui est admiré par ses élèves. Donc il n'est pas du tout en situation de stress, il n'est pas du tout en situation... Mais au contraire, il est dans des conditions favorables pour les apprentissages, etc. Il en est de même pour les feedbacks. C'est-à-dire que les retours d'informations sur ce que fait l'élève, sont étudiés depuis très longtemps, les résultats sont extrêmement clairs. Les feedbacks positifs permettent l'amélioration des apprentissages. Les feedbacks négatifs détériorent l'apprentissage parce qu'ils sont source de stress, d'impuissance apprise, d'autoritarisme, etc. Alors, il y a une question qui reste en suspens. Pour un apprentissage définitif, combien de répétitions ? Alors, combien ?
7.
7 répétitions. Oui. Oui, alors, il se dit à peu près n'importe quoi en termes de répétition. On peut tout inventer, on peut tout dire. On peut... si 7 répétitions suffisaient à apprendre, eh bien, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de génies en France. Moi le premier. Mais pour apprendre une récitation, bon, j'ai toujours, ça dépend de la longueur, bien sûr, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés. 7 répétitions ne m'ont pas suffi, surtout si c'était des récitations grecques ou latines, où le sens m'échappait en plus. Bon. Les sportifs, eux, ont une réponse. Notamment, ils ont fait des études sur le trampoline. Comment apprendre au trampoline, hein, une double vrille, etc. Bon, 1 million de répétitions. Tous les entraîneurs de niveau international, sont d'accord pour dire qu'il faut au moins 1 million de répétitions. Donc, si vous retraduisez ça en termes d'apprentissage scolaire, vous dites, bon, on commence quand, on finit quand. C'est un peu délicat. Voilà. On va continuer. Alors, aujourd'hui, en neurosciences, tous les chercheurs reconnus utilisent l'IRM, l'imagerie à résonance magnétique fonctionnelle, et les résultats les plus évidents, c'est que, par exemple, l'émotion perturbe l'action. C'est-à-dire que Mais le problème, c'est comment, en imagerie cérébrale, mesurer ce taux d'émotion. Comment faire pour se libérer complètement de l'émotion, ou comment faire pour la prendre en compte quand il y a de l'émotion. Or, tout le monde est d'accord pour dire que l'émotion perturbe l'action. Donc là, est-ce qu'on est dans les sciences exactes, ou est-ce qu'au contraire, on a un perturbateur qui, on ne sait pas comment l'exploiter. L'imagerie cérébrale est intéressante, bien sûr, mais elle est intéressante toujours sur le plan individuel. C'est-à-dire que la classe, ce n'est pas une somme d'individus. Il y a un climat de classe, il y a une communication, toujours entre l'enseignant et l'élève, etc. Or, l'imagerie cérébrale ne permet pas d'appréhender le collectif. Pour le moment, ça va se faire, dès qu'ils auront réfléchi à la question. Mais pour le moment, toutes les expériences sont des expériences sur des cerveaux individuels, qui ne sont pas en connexion. Bon. Et donc, les relations sociales, pour le moment, sont ignorées. Pour le moment, toute l'organisation sociale qui entoure, et environnementale, qui entoure ces expériences, est ignorée. Pour le moment, les relations affectives sont complètement ignorés. Complètement. C'est-à-dire que l'affect n'est pas pris en compte pour le moment par les neurosciences. Bon. Alors, il y a une question encore plus importante qui se pose, c'est le problème de la conscience. C'est-à-dire que là, les neurosciences, pour le moment, se questionnent sur comment, alors, où se situe la conscience dans le cerveau et comment peut-on l'explorer. Ça, c'est une autre paire de manches. Alors, on passe. Alors, je vais revenir sur ce qu'on appelle la neuroéducation. Aujourd'hui, il y a un champ qui s'ouvre, je le vois dans les revues, par exemple, qui est le champ de la neuroéducation. Bon, si la neuroéducation est une science, eh bien, il faut qu'elle réponde à un certain nombre de questions qui sont d'ordre axiologique, épistémologique et méthodologique. Donc, sur le plan axiologique, c'est-à-dire le problème des valeurs, pour quelle finalité, pour quelle valeur, pour quelle société doit-on conduire des explorations, des expérimentations en neuroscience, en neuroéducation, pardon. C'est-à-dire que, est-ce que l'on peut isoler les études que l'on peut enclencher avec, pour quelle société désire-t-on, pour quelle société se bat-on, et qu'est-ce que ces explorations vont apporter dans le cadre de cette société qu'on désire? Ou est-ce qu'au contraire, on se situe dans l'ici et maintenant, et tout simplement dans l'ici et maintenant? Donc se pose un problème d'axiologie, se pose un problème d'épistémologie, c'est-à-dire que la neuroéducation, il n'y a pas de science sans objet, sans méthode. Aujourd'hui, l'objet même de la neuroéducation n'est pas défini. Quel est l'objet de la neuroéducation? Ben, si on le met en rapport avec la praxiologie, on s'aperçoit que c'est difficile à définir, puisque le terme d'éducation nous projette dans le futur. Quelle serait la méthode? Bon, toutes les sciences aujourd'hui, exactes, ont un objet de recherche et une méthode pour atteindre cet objet. Donc là, pour le moment, il y a une multitude de méthodes. Et cette multitude de méthodes ne peuvent pas se concentrer dans la définition d'une méthode qui dominerait ou qui contiendrait toutes les autres. Il y a trop de chemins de traverse. Et puis, c'est une pratique, c'est aussi une praxéologie, puisqu'on a vu que l'éducation était une pratique. Et donc, quelle praxéologie en neurosciences? Quelle pratique éducative et pourquoi faire? Quelle méthode pédagogique, puisque notre ministre et le président du conseil scientifique plaident aujourd'hui pour des méthodes pédagogiques. Alors, quelle méthode pédagogique? Le ministre est, je dirais, hésitant. Dès le départ, il est parti sur, en lecture par exemple, la méthode syllabique est bien supérieure à la méthode globale, il faut interdire la méthode globale. Bon, devant le holà des enseignants, il a réduit ses prétentions en disant que c'est pas simple, qu'il faut réfléchir à la question, qu'il faut entretenir le débat, etc. Bon, alors, quelle méthode pédagogique? Si vous posez la question à des enseignants, si vous essayez de faire une recherche sur la comparaison des méthodes pédagogiques, eh bien, vous allez faire chou blanc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des travaux de recherche sur le bilan, des effets comparatifs des méthodes pédagogiques, eh bien, vous chercherez sur Internet et vous me direz ce que vous avez trouvé. Bon. Il y a très 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 peu de chercheurs qui se sont intéressés aux effets comparatifs des méthodes pédagogiques. Réellement, sur des cohortes d'élèves importants, et notamment sur un temps qui n'est pas un temps court, mais un temps long. Bon. Alors, personnellement, moi je l'ai fait. Mais je l'ai fait dans un cadre très précis, avec 500 enfants sur 3 ans, et je vous livre le résultat de mes recherches en la matière. C'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode pédagogique. Il n'y a que des méthodes plus ou moins bien adaptées à l'étape conative dans laquelle se situe l'élève. C'est-à-dire qu'en fonction de l'état de l'élève, eh bien, on ne peut pas dire, bon, c'est cette méthode qui doit prévaloir. La méthode doit être adaptée à son étape. Bon, si, alors, on va passer, parce qu'il faut quelques explications. Aujourd'hui, par rapport à cette déclaration, qui est un peu une déclaration d'intention, on va dire, et par rapport à la neuroéducation, il y a un certain nombre d'obstacles. Des obstacles pédagogiques bien réels. Par exemple, la croyance, parce que c'est une croyance, en la linéarité des progressions. C'est-à-dire que la grande majorité des enseignants pensent qu'un enfant progresse de façon linéaire. Bon. Alors là, les neurosciences ont apporté quelque chose d'extrêmement clair, c'est que ça ne progresse jamais de façon linéaire. Ça progresse par étapes, avec des seuils. Alors après, les neurosciences ne savent pas quels sont les déterminants de ces seuils. Bon, et on postule que ce sont des seuils de sens. Ceci dit, il n'y a pas de progression linéaire, il n'y a que des progressions par étapes. Bon, après, il faut définir quelles sont ces étapes, etc. C'est une autre paire de manches. La plupart des programmes scolaires et des enseignants partent du principe bon, que voilà ce qu'il faut faire, et donc, puisqu'il faut le faire, ben, on leur fait faire. C'est-à-dire qu'ils ne partent pas de ce que l'élève fait réellement, donc de ce qu'il est capable de faire, puisqu'il le fait, mais de ce qu'on voudrait qu'il fasse. Et bien sûr qu'il est incapable de faire, puisqu'il ne peut pas le faire. Sinon, on passerait au stade supérieur. Ça, c'est un obstacle pédagogique, clair. Alors, après, je rentre dans mes théories propres, bien sûr. Ne pas situer un élève dans un curriculum cognitif, mais faire en sorte que on prend la moyenne de la classe et on se dit, bon, voilà, la classe est en mesure de faire cela, donc on fait faire cela à tout le monde. Alors, bien sûr, il y en a pour qui c'est trop avancé, et il y en a pour qui c'est trop en retard. C'est évident. Ça, c'est un véritable obstacle pédagogique. Alors, la décision quand même du ministre de séparer, de diviser les classes en deux, c'est-à-dire 12 et 12 au lieu de 24 dans les ZEP, c'est quand même une bonne décision, dans la mesure où effectivement l'enseignant pourra évaluer ses élèves de façon beaucoup plus claire et le maître, bon là il doit être maître, doit être mis. Utiliser les mêmes méthodes pour tous sans tenir compte de leurs propres préoccupations. Le problème des préoccupations de l'élève est un autre problème et les neurosciences ne nous éclairent pas sur les préoccupations. Ils nous éclairent et ils éclairent les zones cérébrales notamment sur ce qui se fait, mais pas sur les préoccupations de l'élève qui font qu'il fait cela. Or, utiliser les mêmes méthodes sans tenir compte des préoccupations de l'élève, c'est voué à l'échec. Ne pas lui faire prendre conscience de sa position dans un curriculum, par exemple, ça aussi c'est un facteur d'échec. C'est-à-dire que l'élève doit normalement savoir où se situer dans le curriculum et par là même, lui-même va trouver un certain nombre de solutions qui vont lui permettre de résoudre et de progresser. Bon. Et ne pas faire confiance à l'élève en lui, donnant les moyens de prendre conscience de sa position, pour le moment, les neurosciences n'arrivent pas à régler ce problème-là. On passe. Toujours dans les obstacles pédagogiques, avant d'entamer la discussion, les neurosciences, sont capables de voir ce qu'est l'entropie, la négentropie, c'est-à-dire, et les processus d'émergence. Penser que l'enseignant transmet des savoirs alors qu'il ne peut faire émerger que des connaissances, alors ça c'est une grande question. Et c'est la question que les neurosciences aujourd'hui n'arrivent pas à situer. C'est-à-dire, autant on arrive à situer des circuits d'information, des mises en relation de l'information. Autant si on ne fait pas rentrer cette information dans un schéma général de savoir, connaissance, information, c'est difficile à manipuler. Je prends un exemple. Je vous parle. Bon. Vous êtes très attentifs. C'est exceptionnel. Les étudiants sont beaucoup moins attentifs. Bon. En général, ils ont tous un ordinateur devant eux. Et pendant que vous parlez, ils tapent à l'ordinateur, vous vous demandez ce qu'ils font. Là, vous êtes très attentif. Mais vous êtes attentif à quoi? Vous êtes attentif à l'information que je diffuse. Moi, qu'est-ce que je fais là? Je vous donne des informations. Je diffuse de l'information. D'accord ? Bien sûr, personnellement, je m'inscris aussi dans, et c'était ma profession, dans la production de savoir. Mais ces savoirs-là, qui sont plus ou moins établis, plus ou moins validés par des experts, par des publications scientifiques, etc., ces savoirs-là, on ne peut pas les diffuser comme ça. Donc, ce qu'on diffuse, c'est une information sur ces savoirs. Vous êtes tous attentifs à ces informations et personne parmi vous ne reçoit et ne métabolise cette information de la même façon. Parce qu'après, je peux faire une interrogation et puis on verra que vous avez tous reçu cette information en fonction de ce que vous êtes. Hein, et bien sûr, elle est venue choquer, provoquer un certain nombre de réactions dans votre être, et ces informations se sont transformées, tous de façon différente, en connaissances. Les connaissances, c'est la métabolisation, en fonction de ce que vous êtes, des informations que vous puisez à l'extérieur. Et donc, ces connaissances-là, maintenant, elles sont toutes différentes de celles que vous aviez avant cette rapide introduction, mais elles sont toutes différentes entre vous. C'est-à-dire que sur ce sujet, maintenant on pourrait faire une évaluation, vous n'avez pas du tout les mêmes connaissances. Et bien sûr, personne parmi vous n'est en mesure de restituer un véritable savoir sur les fondements même de cet entretien. Donc, entre les savoirs qui sont établis par les savants, on va dire, entre les informations qui sont diffusées par eux-mêmes ou par d'autres, et les connaissances qui sont assimilées par les élèves, eh bien, il faut faire rentrer cela dans cette différenciation entre savoir, connaissance, information. Or, le problème, c'est que les enseignants pensent diffuser du savoir, et donc ils pensent diffuser un savoir exact, alors qu'ils ne peuvent que éventuellement faire émerger des connaissances nouvelles chez l'élève par un processus d'émergence. Bon. Alors, le gros problème, bien sûr, et je vais en finir avec cela, c'est que toutes ces connaissances-là, qui sont diffuses, multiples et variées, eh bien, il faut qu'elles fassent sens pour l'action. C'est-à-dire que si ces connaissances ne sont pas reliées, ne sont pas assimilées, et si elles ne correspondent pas à une métabolisation générale qui fait sens, eh bien, il ne peut pas y avoir d'action au bout. Donc, le problème, c'est comment relier ces connaissances, par quel circuit on passe, et voilà. Alors, pour cela, il faut faire de nouvelles recherches. Hein, et c'est quelques perspectives que je voulais ouvrir. Relier recherche et éducation. Recherche en neurosciences notamment, et éducation. Alors, en dehors de la recherche fondamentale, bien sûr, la recherche appliquée à l'éducation ne devrait-elle pas répondre, d'abord et avant tout, aux questions des pédagogues ? C'est-à-dire que, est-ce que dans son laboratoire, un scientifique, qui fait de la recherche, et qui est c'est louable, est-ce qu'il ne devrait pas commencer par poser aux pédagogues la principale question, sur quoi voulez-vous qu'on fasse des recherches ? Bon. Or, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, les chercheurs déposent des projets de recherche, etc., qui sont financés, avalisés par des instances supérieures, mais ça ne part jamais des préoccupations des enseignants. Je pense que sur le plan de l'investigation de la recherche, c'est une faute rédhibitoire. C'est-à-dire que si la recherche en neurosciences ne répond pas aux questions que se posent les enseignants, eh bien, on peut se demander à quoi elle sert. Alors, elle peut toujours être ensuite récupérée, etc., pour le commerce des yaourts, hein, mais ce n'est pas pour développer des apprentissages chez les élèves. La deuxième question, est-ce que les protocoles de recherche ne pourraient pas être établis en situation réelle d'enseignement ? Parce que
une recherche dans un laboratoire et puis une recherche en situation réelle, eh bien, c'est pas du tout la même chose. Donc, en situation réelle, il faut d'autres moyens d'investigation et de recherche, mais il faut y réfléchir. C'est pas impossible, mais il faut y réfléchir. Pour le moment, on prend des élèves qu'on manipule, etc., de façon tout à fait individuelle, on les met dans des machines, et on explore effectivement l'allumage de leur zone cérébrale, mais, bon, ils sont pas en situation de classe. Ça serait mieux s'ils étaient en situation de classe. La connaissance des particularités des élèves, est-ce qu'elle ne devrait pas être prise en compte par les chercheurs? C'est-à-dire qu'on prend un élève qu'on classe comme élève moyen, c'est pas ceci qui nous intéresse. Les élèves qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont les élèves qui présentent des cas qui sont des cas particuliers, soit parce qu'ils ont des troubles, soit parce que, au contraire, ils sont extraordinaires. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est pas l'élève moyen. Or aujourd'hui, il s'intéresse surtout à l'élève moyen. Bon, on passe. Relier la recherche et l'éducation, c'est aussi, est-ce qu'il serait possible, et là pour le moment il n'y a pas de travaux qui portent là-dessus, comparer les disciplines en fonction de leur prévalence propre. Par exemple, il y a des disciplines, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont développementales, dont la prévalence hein, dans l'amélioration, c'est le développement. D'autres dont la prévalence, c'est la technique, ce sont les apprentissages, hein, ou dont la prévalence est fonctionnelle. Bon. Et là, on n'a pas du tout affaire aux mêmes choses. C'est-à-dire que si on s'intéresse, par exemple, aux disciplines hein, qui ont comme prévalence dominante la technique, dans toute discipline, il y a toujours ces trois dimensions. Il y a toujours la dimension développementale, la dimension des apprentissages, hein, technique, et la dimension fonctionnelle. Il y a forcément les trois pour que ça permette l'action. Mais dans chaque discipline, il y a une dimension qui prévaut sur toutes les autres et qui fonde cette discipline hein, en essence. Et donc, il faut se demander quelle est cette essence de la discipline. Ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, entre la récitation française, l'orthographe, la grammaire hein, et l'expression française, ce ne sont pas du français. On ne peut pas dire on va faire une exploration en français. C'est trois disciplines qui sont trois disciplines à prévalence très différente. Hein. La grammaire, ben, c'est établir des circuits ou des schémas cognitifs, par exemple. Et si ces circuits ne sont pas établis, eh bien, on sera toujours nul en grammaire. Bon. Par exemple, l'expression française, hein, qui est dominante fonctionnelle, ben, ce qui nous intéresse là-dedans, ce sont les connexions synaptiques. C'est-à-dire, plus il y aura de connexions, plus il y aura de mises en relation, plus il y aura... qui sont éphémères. C'est-à-dire qui se produisent à un moment donné, dans l'instant, etc., puis qui disparaissent. Et c'est ces connexions-là qui permettent l'expression spontanée et instantanée. Mais on n'est pas du tout sur les mêmes circuits hein, que les circuits développementaux, techniques, etc. On est sur d'autres circuits. Donc, il est important de mettre en relation les neurosciences et la discipline. Mais pour cela, il faut un modèle d'analyse de la discipline. Si on n'a pas un modèle d'analyse de la discipline, ce n'est pas possible. Et les neuroscientifiques n'ont pas ces modèles d'analyse. Voilà. Et pour terminer, au-delà des prévalences disciplinaires, étudier les prévalences d'étapes cognitives, par exemple, et les changements d'étapes. C'est-à-dire que les neuroscientifiques établissent bien les bifurcations. C'est-à-dire qu'il y a une zone qui s'allume, puis une autre zone qui s'allume, et ils voient bien que ce n'est pas la même zone qui s'allume. Bon. Mais quelles en sont les causes? Et est-ce qu'ils sont en mesure, justement, de mettre en relation ces bifurcations avec les changements d'étapes? Enfin, ça, c'est une question, à mon avis, qui peut interpeller directement les chercheurs, et les réponses seraient très très utiles immédiatement à l'enseignant. Au lieu de ça, bon, ben, ils sont dans leur tour d'ivoire, on va dire, de recherche, et ils satisfont aux projets de recherche qui sont financés par des gens qui ont intérêt à ce financement. La discussion est ouverte. Thank you.
Je passe au micro.